L'envers d'un grand homme, suite. S'il y eut jamais deux êtres peu faits pour vivre ensemble, ce furent bien ces deux-là, opposés d'instinct, d'éducation, de tempérament, de race, n'ayant la même pensée sur rien, c'était le nord et le midi en présence et sans espoir de fusion possible. La passion vit de ces contrastes, elle en rit quand on les lui signale, se sentant la plus forte. Mais, au train journalier de l'existence, au retour monotone des journées et des nuits sous le même toit, la fumée de cette ivresse qui fait l'amour se dissipe et l'on se voit, et l'on se juge. Dans le nouveau ménage, le réveil ne vint pas tout de suite, du moins pour Rosalie. Clairvoyante et sensée sur tout le reste, elle demeura longtemps aveugle devant Numa, sans comprendre à quel point elle lui était supérieure. Lui eut bientôt fait de se reprendre. Les fougues du midi sont rapides en raison directe de leur violence. Puis le méridional est tellement convaincu de l'infériorité de la femme qu'une fois marié et sûr de son bonheur, il s'y installe en maître, en pacha, acceptant l'amour comme un hommage, et trouvant que c'est déjà bien beau, car enfin d'être aimé, cela prend du temps, et Numa était très occupée avec le nouveau train de vie que nécessitait son mariage, sa grande fortune, la haute situation au palais du gendre de Lequesnois. Les 100 000 francs de la tante Portal avaient servi à payer Malmus, le tapissier, à passer l'éponge sur cette navrante et interminable vie de garçon, et la transition lui sembla double, de l'humble frichti sur la banquette de velours élimée, près de l'ancienne à tous, à la salle à manger de la rue Scribe, où il présidait en face de son élégante petite parisienne les somptueux dîners qu'il offrait au prince de la Basoche et du Champ. Le provençal l'aimait sur mais la vie brillante, le plaisir gourmand et fastueux. Mais il l'aimait surtout chez lui, sous la main, avec cette pointe de débraillé qui permet le cigare et l'histoire salée. Rosalie accepta tout, s'accommoda de la maison ouverte, de la table mise à demeure, 10-15 convives tous les soirs, et rien que des hommes, des habits noirs, parmi lesquels sa robe claire faisait tache, jusqu'au moment où le café servi, les boîtes de Havane ouvertes, elle cédait la place aux discussions politiques, au rire lipu d'une fin de dîner de garçon. Les maîtresses de maison seules savent ce qu'un décor pareil, installé tous les jours, cache de dessous compliqués de difficultés de service. Rosalie s'y débattait sans une plainte, tâchait de régler de son mieux ce désordre, emporté dans l'éclair de son terrible grand homme, qu'il agitait de toutes ses turbulences, et de temps en temps souriait à sa petite femme entre deux tonnerres. Mais elle ne regrettait qu'une chose, c'était de ne pas l'avoir assez à elle. Même au déjeuner, à ce déjeuner matinal des avocats talonnés par l'heure de l'audience, il y avait toujours l'ami entre eux, ce compagnon dont l'homme du midi ne pouvait se passer, l'éternel donneur de répliques nécessaire au jaillissement de ses idées, le bras où il s'appuyait complaisamment, auquel il confiait sa serviette trop lourde en allant au palais. Ah, comme elle l'aurait accompagné volontiers au-delà des ponts, comme elle aurait été heureuse les jours de pluie de venir l'attendre dans leur coupé et de rentrer tous deux, bien serrés derrière la buée tremblante des vitres. Mais elle n'osait plus le lui demander. Sûr qu'il y aurait toujours un prétexte, un rendez-vous donné dans la salle des pas perdus, à l'un des 300 intimes dont le méridional disait d'un air attendri « Oh, il m'adore, il se jetterait au feu pour moi !» C'était sa façon de comprendre l'amitié. Du reste, aucun choix dans ses relations. Sa facile humeur, la vivacité de son caprice, le jetait à la tête du premier venu et le reprenait aussi lestement. Tous les 8 jours, une toccade nouvelle, un nom qui revenait dans toutes les phrases, que Rosalie inscrivait soigneusement à chaque repas, sur la petite carte historiée du menu, puis il disparaissait, tout à coup, comme si la personnalité du monsieur s'était trouvée aussi fragile, aussi facilement flambée que les coloriages du petit carton. Parmi ses amis de passage, un seul tenait bon, moins un ami qu'une habitude d'enfance, car Roumestan et Bompard étaient nés dans la même rue. Celui-ci faisait partie de la maison, et la jeune femme, dès son mariage, trouva installé chez elle, à la place d'honneur, comme un meuble de famille, ce maigre personnage à tête de palicare, au grand nez d'aigle, aux yeux en billes d'agate, dans une peau gaufrée, safranée, un cuir de cordoue taillé de ses rides spéciales, aux grimes, aux pitres, à tous les visages forcés par des contorsions continuelles. Pourtant, Bompard n'avait jamais été comédien. Un moment, il chanta dans les chœurs aux Italiens, et c'est là que Numa l'avait retrouvé. Sauf ce détail, impossible de rien préciser sur cette existence ondoyante. Il avait tout vu, fait tous les métiers, était allé partout. On ne parlait pas devant lui d'un homme célèbre, d'un événement fameux, sans qu'il affirmât oh, « c'est mon ami, oh, oh, ben j'y étais, j'en viens !» Et tout de suite, une histoire à preuve. En mettant ces récits bout à bout, on arrivait à des combinaisons stupéfiantes. Bompard, dans la même année, commandait une compagnie de déserteurs polonais, et Tcherkès, au siège de Sébastopol, dirigeait la chapelle du roi d'Hollande, du dernier bien avec la sœur du roi, ce qui lui avait fait valu 6 mois de casemate à la forteresse de La Haye, mais ne l'empêchait pas toujours, à la même date, de pousser une pointe de lagouate à Gadames, en plein désert africain. Et tout cela débité avec un fort accent du midi tourné au solennel, très peu de gestes, mais des jeux de physionomie mécanique fatigants à regarder, comme les évolutions du verre cassé dans un kaléidoscope. Le présent de Bompard n'était pas moins obscur et mystérieux que son passé. Où vivait-il? De quoi? Tantôt, il parlait de grandes affaires d'asphalte, d'un morceau de Paris à bitumer d'après un système économique. Puis, subitement, tout à sa découverte d'un infaillible remède contre le phylloxéra, il n'attendait qu'une lettre du ministère pour toucher la prime de 100 000 francs, régler sa note à la petite crèmerie où il mangeait et dont il avait rendu les patrons à moitié fous avec son mirage enragé d'espérances extravagantes. Ce méridional en délire faisait la joie de Roumestan. Il l'emmenait toujours avec lui, s'en servait comme d'un plastron, le poussant, le chauffant, mettant sa folie en verve. Quand Numa s'arrêtait pour parler à quelqu'un sur le boulevard Bompard, s'écartait d'un pas digne avec le geste de rallumer son cigare. On le voyait aux enterrements, aux premières, demandant tout affairé. « Avez-vous vu Roumestan ?» Il arrivait à être aussi connu que lui. À Paris, ce type de suiveur est assez fréquent. Tous les gens connus traînent après eux un Bompard qui marche dans leur ombre et s'y découpe une sorte de personnalité. Par hasard, le Bompard de Roumestan en avait une absolument à lui. Mais Rosalie ne pouvait souffrir ce comparse de son bonheur, toujours entre elle et son mari, remplissant les rares moments où ils auraient pu être seuls. Les deux amis parlaient ensemble un patois qui la mettait à part, riaient de plaisanteries locales intraduisibles. Ce qu'elle lui reprochait surtout, c'était ce besoin de mentir, ces inventions auxquelles elle avait cru d'abord, tellement l'imposture restait étrangère à cette nature droite et franche, dont le plus grand charme était l'accord harmonieux de la parole et de la pensée, accord sensible dans la sonorité, l'assurance de sa voix de cristal. « Je ne l'aime pas, c'est un menteur, » disait-elle d'un accent profondément indigné, qui amusait beaucoup Roumestan. et défendant son ami. « Mais non, ce n'est pas un menteur. C'est un homme d'imagination, un dorme réveillé, qui parle ses rêves. Mon pays est plein de ces gens-là. C'est le soleil, c'est l'accent. Vois ma tante Portal. Et moi-même à chaque instant, si je ne me surveillais pas. » Une petite main protestait, lui fermait la bouche. « Tais-toi, tais-toi. Je ne t'aimerais plus si tu étais de ce midi-là. » Il en était bien pourtant. Et malgré la tenue parisienne, le vernis mondain qui le comprimait, elle allait le voir sortir ce terrible midi routinier, brutal, illogique. La première fois, ce fut à propos de religion. Là-dessus, comme sur tout le monde, Roumestan avait la tradition de sa province. Il était le Provençal catholique qui ne pratique pas, ne va jamais à l'église que pour chercher sa femme à la fin de la messe, reste dans le fond près du bénitier, de l'air supérieur d'un papa à un spectacle d'ombre chinoise, ne se confesse qu'en temps de choléra, mais se ferait pendre ou martyriser pour cette foi non ressentie, qui ne modère en rien ni ses passions ni ses vices. En se mariant, il savait que sa femme était du même culte que lui, que le curé de Saint-Paul avait eu pour eux des éloges en rapport avec les cierges, les tapis, les étalages de fleurs d'un mariage de première classe. Il n'en demanda pas plus long. Toutes les femmes qu'il connaissait, sa mère, ses cousines, la tante Portal, la duchesse de San Donnino, étaient des catholiques ferventes. Aussi fut-il très surpris, après quelques mois de mariage, de voir que Rosalie ne pratiquait pas. Il lui en fit l'observation. « Vous n'allez donc jamais à confesse ?»« Non, mon ami, » dit-elle sans s'émouvoir. « Ni vous non plus, à ce que je vois. »« Oh, moi, ce n'est pas la même chose. »« Pourquoi ?» Mais elle le regardait avec des yeux si sincèrement, si lumineusement étonnés. Elle avait si peu l'air de se douter de son infériorité de femme. Il ne trouva rien à répondre et la laissa s'expliquer. Oh, ce n'était pas une libre penseuse, un esprit fort. Élevée dans un excellent pensionnat de Paris, un prêtre de Saint-Laurent pour aumônier, jusqu'à 17 ans, jusqu'à sa sortie de pension et même à la maison pendant quelques mois encore, elle avait continué ses pratiques religieuses à côté de sa mère, une dévote du midi. Puis un jour, quelque chose s'était brisé en elle. Elle avait déclaré à ses parents la répulsion insurmontable que lui causait le confessionnal. La mère eut essayé de vaincre ce qu'elle croyait un caprice, mais M. Le Quesnoy s'était interposé. Laissez, laissez, cela m'a pris comme elle, au même âge qu'elle. Et dès lors, elle n'avait plus eu à prendre avis et direction que de sa jeune conscience. Parisienne, d'ailleurs, femme du monde, ayant horreur des indépendances de mauvais goût, si Numa tenait à aller à l'église, elle l'accompagnerait, comme elle avait accompagné sa mère bien longtemps, sans toutefois consentir au mensonge, à la grimace de croyance qu'elle n'avait plus. Il l'écoutait, plein de stupeur, épouvanté d'entendre de telles choses, dites par elle, et avec une énergique affirmation de son être moral, qui déroutait toutes les idées du méridional sur la dépendance féminine. « Tu ne crois donc pas en Dieu ?» fit-il de son plus beau creux d'avocat, le doigt levé solennellement vers les moulures du plafond. Elle eut un cri. « Est-ce que c'est possible ?» Si spontané, si sincère, qu'il valait un acte de foi. Alors il se rejeta sur le monde, les convenances sociales, la solidarité de l'idée religieuse et monarchique. Toutes ces dames pratiquaient, la duchesse, madame d'Escarbès. Elles recevaient leurs confesseurs à leur table en soirée. Cela ferait un effet déplorable si l'on savait. Mais il s'arrêta, comprenant qu'il pataugeait, et la discussion en restant là. Deux ou trois dimanches de suite, il mit une grande affectation à conduire sa femme à la messe, ce qui valut à Rosalie l'aubaine d'une promenade au bras de son mari. Mais il se lassa vite du régime, prétexta des affaires et cessa toute manifestation catholique. Ce premier malentendu ne troubla en rien le ménage. Comme si elle avait voulu se faire pardonner, la jeune femme redoubla de prévenance, de soumission ingénieuse et toujours souriante. Peut-être moins aveugle qu'au premier jour, pressentait-elle confusément des choses qu'elle n'osait même pas s'avouer, mais elle était heureuse malgré tout, parce qu'elle voulait l'être, parce qu'elle vivait dans les limbes où le changement d'existence, la révélation de leur destinée de femme, jette les jeunes mariés encore enveloppés de ses rêves, de ses incertitudes, qui sont comme les lambeaux des tulles blanches de la robe de noces. Le réveil ne pouvait pas tarder. Il fut pour elle affreux et brusque. Un jour d'été, il passait la belle saison à Orsay, dans la propriété des Lecanois. Rosalie, son père et son mari, partis pour Paris comme il faisait chaque matin, s'aperçut qu'il lui manquait un petit modèle de layette à laquelle elle travaillait. Une layette, hein, mon Dieu, oui. On en vend de superbes toutes faites, mais les vraies mères, celles qui le sont d'avance, aiment à coudre, à tailler elles-mêmes. Et à mesure que le carton s'emplit ou s'entasse les parures de l'enfant, à sentir qu'elle hâte sa venue, que chaque point les rapproche de la naissance espérée. Pour rien au monde, Rosalie n'aurait voulu se priver de cette joie, n'aurait permis qu'une autre mît la main à cet étalage de petits bonnets qu'on essayait sur le poing, de petites robes de flanelle, de brassières qui, avec leurs manches droites, figuraient leur vie et les gestes gourds de la toute petite enfance. Et justement ce modèle qui manquait. « Envoie la femme de chambre, » disait la mère. « Mais la femme de chambre, allons donc, est-ce qu'elle saurait ?»« Non, 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 j'y vais moi-même. Je ferai mes emplettes avant midi, puis j'irai surprendre Numa et manger la moitié de son déjeuner. » L'idée de ce repas de garçon avec son mari dans l'appartement de la rue Scribe à demi fermé, les rideaux enlevés, les housses sur les meubles, l'amusait comme une escapade. Elle en riait toute seule en montant, ses courses faites, l'escalier sans tapis de la maison parisienne en été, et se disait, mettant avec précaution la clé dans la serrure pour le surprendre, « J'arrive un peu tard, il aura déjeuné. » Il ne restait plus, en effet, dans la salle à manger, que les débris d'un petit festin gourmand à deux couverts, et le valet de chambre en jaquette à carreaux installé devant la table, en train de vider les bouteilles et les plats. Elle ne vit rien d'abord que sa partie manquée par sa faute. Ah, si elle n'avait pas tant flâné dans ce magasin devant les jolies babioles à broderie et à dentelle. « Monsieur est sorti ?» La lenteur du domestique à répondre, la pâleur subite de cette large face impudente, s'aplatissant entre de longs favoris, ne la frappait pas encore. Elle n'y voyait que l'émoi du serviteur pris le nez dans son vol et sa gourmandise. Il fallut bien dire, pourtant, que monsieur était encore là, et en affaire, et qu'il en aurait pour longtemps. Mais que tout cela fut long à bégayer, quelle main tremblante il avait cet homme pour débarrasser la table et mettre le couvert de sa maîtresse. Est-ce qu'il a déjeuné seul? Oui, madame, enfin, c'est-à-dire avec monsieur Bompard. Elle regardait une dentelle noire jetée sur une chaise. Le drôle la voyait aussi, et leurs yeux se rencontrant sur ce même objet, ce fut comme un éclair pour elle. Brusquement, sans un mot, elle s'élança à travers le petit salon d'attente, fut droit à la porte du cabinet, l'ouvrit grande et tomba raide. Il ne s'était même pas enfermé. Et si vous aviez vu la femme, ses 40 ans de blonde esquintée, marquées en coupe rose sur une tête aux lèvres minces, aux paupières fripées comme un pot de vieux gant, sous les yeux en balafre violette les cicatrices d'une vie de plaisir, les épaules carrées et une vilaine voix. Seulement, elle était noble, la marquise d'Escarbès. Et pour l'homme du midi, cela tenait lieu de tout, le blason lui cachait la femme. Séparée de son mari par un procès scandaleux, brouillée avec sa famille et les grandes maisons du faubourg, Madame d'Escarbès s'était ralliée à l'Empire, avait ouvert un salon politique, diplomatique, vaguement policier, où venaient sans leur femme les personnages les plus huppés d'alors. Puis, après 2 ans d'intrigue, quand elle se fut créée un parti, des influences, elle songea à faire appel. Roumestan, qui avait plaidé pour elle en première instance, ne pouvait guère refuser de la suivre. Il hésitait cependant à cause des opinions très affichées, mais la marquise s'y prit de telle sorte, et la vanité de l'avocat fut tellement flattée de cette façon de s'y prendre, que toutes ses résistances tombèrent. Maintenant l'appel étant proche, il se voyait tous les jours, tantôt chez lui, tantôt chez elle, menant l'affaire au parti doublé vivement. Rosalie faillit mourir de cette horrible découverte qui l'atteignait tout à coup dans sa sensibilité douloureuse de femme, à la veille d'être mère, portant 2 cœurs, 2 foyers de souffrance en elle. L'enfant fut tué net, la mère survécut. Mais lorsque, après 3 jours d'anéantissement, elle retrouva toute sa mémoire pour souffrir, ce fut une crise de larmes, un flot amer que rien ne pouvait arrêter ni tarir. Sans un cri, sans une plainte, quand elle avait fini de pleurer sur la trahison de l'ami, de l'époux, ses larmes redoublaient devant le berceau vide où dormaient seuls les trésors de la layette sous des rideaux d'un transparent bleu. Le pauvre Numa était presque aussi désespéré. Cette grande espérance d'un petit Roumestan, de l'aîné, toujours paré d'un prestige dans les familles provençales, détruite, anéantie par sa faute. Ce pâle visage de femme noyé dans une expression de renoncement. Ce chagrin aux dents serrées, aux sanglots sourds, lui fendait l'âme. Si différent de ses manifestations et de la grosse sensibilité à fleur de peau qu'il montrait, assis au pied du lit de sa victime, les yeux gros, les lèvres tremblantes. Rosalie, alors voyons. Il ne trouvait que cela à dire. Mais que de choses dans cette allons, voyons, prononcée avec l'accent du midi facilement apitoyé. On entendait là-dessous. Ne te chagrine donc pas, ma pauvre bête. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça m'empêche de t'aimer? C'est vrai qu'il l'aimait autant que sa légèreté lui permettait un attachement durable. Il ne rêvait personne autre qu'elle pour tenir sa maison, le soigner, le dorloter. Lui qui disait si ingénument « J'ai besoin d'un dévouement près de moi », il se rendait bien compte que celui-là était le plus complet, le plus aimable qu'il pût désirer, et l'idée de le perdre l'épouvantait. Si ce n'est pas cela, de l'amour. Hélas, Rosalie s'imaginait tout autre chose. Sa vie était brisée, l'idole à bas, la confiance pour toujours perdue. Et pourtant, elle pardonna. Elle pardonna par pitié, comme une mère cède à l'enfant qui pleure, qui s'humilie. Aussi pour la dignité de leur nom, pour le nom de son père que le scandale d'une séparation aurait sali, et parce que les siens la croyant heureuse et ne pouvaient leur ôter cette illusion. Par exemple, ce pardon accordé si généreusement, elle l'avertit qu'il n'eut pas à y compter s'il renouvelait l'outrage. Plus jamais, ou alors leur devise séparée cruellement, radicalement devant tous. Ce fut signifié d'un ton, avec un regard où les fiertés de la femme prenaient leur revanche de toutes les convenances et entraves sociales. Numa comprit, jura de ne plus recommencer, et sincèrement. Il frémissait encore d'avoir risqué son bonheur, ce repos auquel il tenait tant, pour un plaisir qui ne satisfaisait que sa vanité. Et le soulagement d'être débarrassé de sa grande dame, de cette marquise à gros os qui, le blason à part, ne parlait guère plus à ses sens que l'ancienne à tous du café Malmus, de n'avoir plus de lettres à écrire, de rendez-vous à fixer, l'évanouissement de toute cette friperie sentimentale et tarabiscotée qui avait si peu à son gêne, sans gêne, l'épanouissait presque autant que la clémence de sa femme, la paix intérieure reconquise. Heureux, il le fut comme auparavant. Il n'y eut rien de changé aux apparences de leur vie. Toujours la table mise et le même train de fête et de réception, où Roumestan chantait, déclamait, faisait la roue sans se douter que près de lui, deux beaux yeux veillaient, larges ouverts, éclaircis sous de vraies larmes. Elle le voyait maintenant, son grand homme, tout en gestes, en paroles, bon et généreux par élan, mais d'une bonté courte, faite de caprices, d'ostentation et d'un coquet désir de plaire. Elle sentait le peu de fond de cette nature hésitante dans ses convictions comme dans ses haines. Par-dessus tout, elle s'effrayait pour elle et pour lui de cette faiblesse cachée sous de grands mots et des éclats de voix. Faiblesse qui l'indignait, mais en même temps la rattachait à lui, par ce besoin de protection maternelle où la femme appuie son dévouement quand l'amour est parti. Et toujours prête à se donner, à se dévouer malgré la trahison, elle n'avait qu'une peur secrète, pourvu qu'il ne me décourage pas. Clairvoyante comme elle était, Rosalie s'aperçut vite du changement qui se faisait dans les opinions de son mari. Ses relations avec le faubourg se refroidissaient. Le gilet nankin du vieux sanier, la fleur de lys de son épingle à cravate ne lui inspiraient plus la même vénération. Il trouvait que cette grande intelligence baissait. C'était son ombre qui siégeait à la chambre, une ombre somnolente rappelant assez bien la légitimité et cette torpeur séreuse voisine de la mort. Ainsi Numa évoluait tout doucement, entr'ouvrait sa porte à des notabilités impérialistes rencontrées dans le salon de Madame d'Escarbès, dont l'influence avait préparé ce virement. « Prends garde à ton grand homme, je crois qu'il mue, » disait le conseiller à sa fille, un jour que la verve gouailleuse de l'avocat s'était amusée à table du parti de Frochdorf, qu'il comparait au Pégase en bois de Don Quichotte immobile, écloué sur place, pendant que son cavalier, les yeux bandés, s'imaginait faire une longue route en plein azur. Elle n'eut pas à le questionner longtemps. Tout dissimulé qu'il pût être, ses mensonges qu'il dédaignait de soutenir par des complications ou des finesses, gardaient un abandon qui le livrait tout de suite. Entrant un matin dans son cabinet, elle le surprit très absorbé dans la composition d'une lettre, pencha sa tête au niveau de la sienne. « À qui écris-tu ? » Il bégaya, essaya de trouver quelque chose, et pénétré par ce regard obsédant comme une conscience, il eut un élan de franchise forcée. C'était, en style maigre et emphatique, ce style de barreau qui gesticule avec de grandes manches, une lettre à l'empereur, par laquelle il acceptait le poste de conseiller d'État. Cela commençait ainsi. Vendéen du Midi, grandi dans la foi monarchique et le culte respectueux du passé, je ne crois pas forfaire à l'honneur ni à ma conscience. « Mais tu n'en verras pas ça !» dit-elle vivement. Il commença par s'emporter, parler de haut, brutal, en vrai bourgeois d'Aps, discutant dans son ménage. Mais de quoi se mêlait-elle à la fin des fins? Qu'est-ce qu'elle y entendait? Est-ce qu'il la tourmentait, lui, sur la forme de ses chapeaux ou ses patrons de robes nouvelles? Alors il tonnait, comme à l'audience, devant la tranquillité muette, presque méprisante de Rosalie, qui laissait passer toutes ses violences, débris d'une volonté détruite d'avance, à sa merci. C'est la défaite des exubérants, ces crises qui les fatiguent et les désarment. « Mais tu n'enverras pas cette lettre, » reprit-elle. « Ce serait mentir à ta vie, à tes engagements. »« Des engagements et envers qui ?»« Mais envers moi. » « Rappelle-toi comment nous nous sommes connus. » « Comment tu m'as pris le cœur avec tes révoltes des belles indignations contre la mascarade impériale ?»« Et de tes opinions, je me soucie encore moins que d'une ligne de conduite adoptée et droite, une volonté d'homme que j'admirais en toi. » Il se défendit. Devait-il donc se morfondre toute la vie dans un parti gelé, sans ressort, un camp abandonné sous la neige ? Ce n'était pas lui, d'ailleurs, qui allait à l'Empire, mais l'Empire qui venait vers lui. L'empereur était un excellent homme, plein d'idées, très supérieur à l'entourage. Et tous les bons prétextes des défections. Rosalie n'en acceptait aucun, et sous la félonie de son évolution, lui en montrait la maladresse. « Mais tu ne vois donc pas comme ils sont inquiets, tous ces gens-là ? Comme ils sentent le terrain miné, creusé autour d'eux. Le moindre choc, une pierre détachée, tout croule. Dans quel bas-fond !» Elle précisait, donnait des détails, résumait ce qu'une silencieuse recueille et médite des propos d'après-dîner quand les hommes, groupés à part, laissent leurs femmes, intelligentes ou non, languir dans ces conversations banales que la toilette, les médisances mondaines ne suffisent pas toujours à animer. Roumestan s'étonnait. Drôle de petite femme. Où avait-elle pris tout ce qu'elle disait là? Il n'en revenait pas qu'elle fût si forte, et dans un de ces vifs retours qui sont l'attrait de ses caractères à outrance, il prenait à deux mains cette tête raisonneuse, mais d'un si charmant éclat de jeunesse, et l'enveloppant d'une pluie de baisers tendres. « Oh, tu as raison, 100 fois raison. C'est le contraire qu'il faut écrire. » Il allait déchirer son brouillon seulement. Il y avait là une phrase de début qui lui plaisait et qui pouvait servir encore en la modifiant un peu comme ceci. « Vendéen du Midi, grandi dans la foi monarchique et le culte respectueux du passé, » je croirais forfaire à l'honneur et à ma conscience en acceptant le poste que votre majesté... Ce refus, très poli mais très ferme, publié par les journaux légitimistes, valut à Roumestan une situation toute nouvelle, fit de son nom le synonyme de fidélité incorruptible, indécousable, disait le charivari, dans une amusante caricature, montrant la toge du grand avocat violemment disputé et tiré entre tous les partis. Quelque temps après, l'Empire s'effondrait, et lorsque l'Assemblée de Bordeaux se réunit, Numa Roumestan eut à choisir entre trois départements du Midi qu'il avait élu député uniquement à cause de sa lettre. Ses premiers discours, d'une éloquence un peu soufflée, eurent bientôt fait de lui le chef de toutes les droites. Ce n'était que la petite monnaie du vieux Sagny qu'on avait là, mais par ce temps de race moyenne, les purs sangs se font rares, et le nouveau leader triompha au banc de la chambre, aussi aisément que jadis sur les divans du père Malmus. Conseiller général de son département, idole du Midi tout entier, rehaussé encore par la magnifique situation de son beau-père, passé premier président à la Cour de cassation depuis la chute de l'Empire, Numa était évidemment destiné à devenir ministre un jour ou l'autre. En attendant, grand homme pour tout le monde excepté pour sa femme, il promenait sa jeune gloire entre Paris, Versailles et la Provence, aimable, familier, bon enfant, emportant son auréole en voyage, mais la laissant volontiers dans son carton à chapeau comme un claque de cérémonie.